Wikipédia, Philikietoria. La Philikietoria, en grec, ou Société amicale ou Société des amis ou Société des compagnons, ou aussi Hétérie des amis fut créée en 1814 à Odessa. L'Hétérie était une société secrète, dont le but était l'indépendance de la Grèce soumise à l'occupation ottomane. Elle fut autant une manifestation du sentiment national grec, que la cause qui transforma ce sentiment national en insurrection. Elle connut des débuts difficiles, tant au point de vue du recrutement qu'au plan financier. Si elle ne réussit pas à convaincre Ioanni Capodistria de prendre sa tête, Alexandre Ypsilanti accepta en avril 1820. Elle joua un rôle fondamental dans la préparation et le déroulement de la guerre d'indépendance grecque. Ce fut à l'initiative de la Philikietoria que le soulèvement se déclencha dans les provinces danubiennes et dans le Péloponnèse. Le 1er janvier 1822, l'indépendance grecque fut proclamée par l'Assemblée nationale réunie à Épidaure. 15 jours plus tard, le drapeau de l'Hétérie était remplacé par le drapeau grec bleu et blanc. La société était de fait dissoute. Emblème de la Philikietoria, les drapeaux portaient l'abréviation de la devise de la société, qui est aussi aujourd'hui la devise de la Grèce, la liberté ou la mort. Emblème de la Philikietoria. Les drapeaux portaient l'abréviation de la devise de la société, qui est aussi aujourd'hui la devise de la Grèce, la liberté ou la mort. Origine et influence modifiée. En Grèce, les échos de la Révolution française soulevèrent l'enthousiasme des intellectuels et éveillèrent le désir d'indépendance. Le poète Riga, d'origine paysanne, multiplia les ouvrages littéraires et politiques. À la fin de ses études, Riga entra au service des Phanariotes, qui gouvernaient les provinces danubiennes. Puis il travailla pour un noble autrichien, et vécut à Vienne où il rencontra la communauté grecque. 1. Centurio, ou Chant de guerre, de 1797, contient un sermon contre la tyrannie, et un appel à toutes les populations de Balkans à lutter contre celle-ci. 2. Il rédigea aussi un projet constitutionnel pour la Grèce, et une confédération balkanique. Franc-maçon, il eut l'idée de créer une société secrète œuvrant pour l'indépendance grecque. Il comptait sur l'intervention de Bonaparte après ses victoires en Italie. Il tenta même de le contacter à Venise en 1797, juste avant d'être arrêté et exécuté en 1798. Il aurait créé une Hétéria à Vienne dans les années 1790. 3. En 1809, des Grecs de Paris organisèrent une société d'entraide pour l'ensemble des Grecs de France. Le signe d'appartenance était un anneau d'or gravé des symboles de l'association. Athanasios Tsakelos, fondateur de la Philikietoria, en fut membre. 4. Une autre société disposait d'un anneau comme signe d'appartenance, l'Hétérie des Philomus, I, dont les buts étaient la conservation des antiquités de la Grèce, et l'éducation intellectuelle et morale de la population. Cette association des Amis des Arts, comme elle était parfois aussi connue, eut un rapide développement en Grèce et à l'étranger. Elle recruta même parmi les participants au congrès de Vienne, et le tsar Alexandre Ier fut même un de ses plus généreux donateurs, d'où l'ambiguïté entretenue ensuite par la Philikietoria quant au soutien du souverain russe. Les membres de l'Hétérie des Philomus portaient un anneau d'or et les donateurs un anneau d'airain. 5. En 1813, Emmanuel Xanto, un autre fondateur de la société, fut initié dans la franc-maçonnerie lors d'un séjour à Leucade. Cette initiation lui donna l'idée de créer une société secrète, qui en serait inspirée afin de réunir tous les capitanigois des Armatoles, et les autres leaders de toutes les classes de Grecs, en Grèce ou ailleurs, en vue, à terme, de libérer la patrie. 4. Elle fut fondée à Odessa par Nikolaos Koufa. 6. Athanasios Tsakelos. 7. Et Emmanuel Xanto. 8. Le 14 septembre, Julien, 1814. 9. Organisation modifiée. Hiérarchie et initiation modifiée. Le serment des membres de l'Hétérie, traduction du serment, je jure, au nom de la vérité et de la justice, l'être suprême étant mon témoin, de préserver, quitte à sacrifier ma propre vie, et d'endurer les pires souffrances, le secret qui va m'être révélé, et je jure de répondre la vérité à toutes les questions qui vont m'être posées. Monument à Kolonaki. Le serment des membres de l'Hétérie. Traduction du serment, je jure, au nom de la vérité et de la justice, l'être suprême étant mon témoin, de préserver, quitte à sacrifier ma propre vie, et d'endurer les pires souffrances, le secret qui va m'être révélé, et je jure de répondre la vérité à toutes les questions qui vont m'être posées. Monument à Kolonaki. Selon les sources, les membres étaient répartis en 3, 10, 5, 4 ou 7, 11 classes. 1. Les frères, ou, pour les membres illettrés. 2. Les associés recommandés ou agréés, pour les lettrés. 3. Les prêtres, qui pouvaient recruter des membres aux deux niveaux inférieurs. 4. Les bergers ou pasteurs, souvent les très riches membres. 5. Les archipasteurs, 12. 6. Les initiés, 12. 7. Les stratèges ou chefs des initiés, 12. 5. Le directoire invisible, 13. Au départ, seuls les trois fondateurs, Nikolaos Koufa, Athanasios Tsakelos et Emmanuel Xanto, constituaient ce directoire invisible. D'autres y entrèrent ensuite. Le principal avantage de l'invisibilité était d'entretenir la rumeur quant aux membres. Ainsi, il pouvait être suggéré que le tsar Alexandre Ier de Russie, lui-même était le chef de l'Hétairie. 4. Seuls les initiés et les stratèges avaient droit à un commandement militaire. 11. L'initiation était inspirée des rituels maçonniques. Chaque nouveau membre devait prêter serment sur la foi orthodoxe et des icônes sacrées, mais le prêtre, éthériste, officiant expliquait qu'il recevait le nouveau membre en vertu de la puissance que lui avaient livrée les grands prêtres des mystères d'Élosie. 14. Une autre forme d'initiation aurait été inspirée de ce qui se faisait chez les Albanais. Deux hommes qui désiraient devenir frères, échangeaient leurs armes autour d'un autel, se serraient les mains, disaient « ta vie est ma vie, et ton âme est mon âme » et juraient de protéger la famille et la maison de l'autre pendant son absence. 15. Yanni Makriani raconte dans ses mémoires son initiation par un pope, trésorier de l'Hétairie, en 1819 ou 1820. Il semble qu'elle ait seulement été un serment sur des icônes jurant de ne rien révéler, ni de la société ni des signes de reconnaissance des membres. 16. Si on ne demandait aux frères qu'un fusil et 50 cartouches, l'agréé devait porter un signe distinctif, une croix au-dessus d'un croissant. On lui tenait ce discours, combat pour la foi et la patrie, engage-toi à haïr, à poursuivre et à exterminer les ennemis de la religion nationale, et de ta patrie le but de la société, la libération de la Grèce, n'était révélé qu'à partir du rang de prêtre, mais tous les membres savaient qu'ils devaient combattre les Turcs. Le stratège recevait une épée et on lui disait, la patrie te la donne pour que tu t'en serves pour elle. 11. Les membres de la classe des prêtres étaient très nombreux. Ce grade était un des plus intéressants. Il donnait le droit de recruter et de conférer à d'autres membres le grade de prêtre, mais la cotisation n'était pas aussi élevée, ni si régulière que dans les grades supérieurs. 14. Une organisation secrète modifiée. Le sort de Riga avait servi de leçon. Le secret absolu devint la règle de fonctionnement. Tous les documents émis par l'Hétairie étaient codés, avec différents codes. Les diplômes d'appartenance étaient codés avec une simple substitution. 2. Remplacer la lettre. 8. Remplacer la lettre E. 9. Remplacer, etc. D'autres codes étaient plus complexes, et certains n'ont pas encore été déchiffrés. 4. Les membres n'étaient connus que par des numéros, Todoro Kolokotroni était le 118, ou par un surnom, le bon chasseur, le noble, le paresseux, etc. Les mots utiles à la préparation de l'insurrection étaient aussi dissimulés, éléphant pour gros navire, cheval pour petit navire, danseur pour bande de palicares, adultère pour assassinat, les hommes durs pour les Anglais, les accroupis pour les Turcs et les vaillants pour les Grecs, etc. 17. Financement modifié. L'adhésion à l'Hétairie impliquait une obligation de participation au financement. Pour les plus pauvres, une petite somme était demandée lors de l'initiation, accompagnée d'une lettre, au cas où les autorités ottomanes s'en emparaient, expliquant que la somme était destinée à un ami depuis longtemps perdu de vue et dans le besoin. Pour les plus riches, la lettre expliquait leur attachement à leur village natal, dont ils étaient nostalgiques depuis leur exil européen, et leur volonté de participer au financement de l'école du village. 17. En raison du faible recrutement les premières années, le financement fut lui aussi réduit. 18. De plus, tous les membres de l'Hétairie, jusqu'au moindre frère, devaient avoir à leur disposition un fusil et 50 cartouches. 11. Les sommes payées lors de l'adhésion variaient en fonction des fortunes. Alexandro Mavrocordato, d'origine fenariote, versa 1000 florins en octobre 1816, Panayotis Okeri donna 10 000 piastres, ou Grossia, 19 lors de son initiation en mai 1818. Avant de faire durant l'été une nouvelle donation. D'autres membres, comme N. Speliade, septembre 1816, ou C. H. Perrivo, mars 1817, versèrent seulement un florin et Orio di Keo di Papa Flessa, juin 1818, dit Grossia. 10. Membres modifiés. Voir aussi, membres de la Finiquietoria. L'étude de quelques listes, mémoires et documents permet de retracer l'évolution du recrutement et de faire des statistiques, pas toujours complètes. Mais, elle montre les premières difficultés, en 1816, 20 membres et en 1817, 42 membres, 18. À l'été 1818, le nombre de membres n'était que de 51, 311 nouveaux membres furent initiés entre juin 1818 et juin 1819, mais seulement 90 dans la seconde moitié de 1819, 10. Les statistiques donnent aussi des renseignements sur le profil des membres. En 1819, la Finiquietoria avait 452 membres, dont 153 commerçants et armateurs, 60 notables, 36 soldats, 24 ecclésiastiques, 23 membres d'une administration, 22 enseignants et étudiants, 16 membres. De professions libérales variées, 10 docteurs, 4 avocats et 104 de professions inconnues. Ainsi, 44% appartenaient à la classe marchande, et 41% à la bureaucratie ou l'intelligentsia. 20. 36 de ses membres venaient de Russie, 25 des provinces danubiennes, 62 de Constantinople, 125 du Péloponnèse, 25 des îles de l'Égée et 41 des îles Ioniennes, où les adhésions augmentèrent après une visite de Capodistria. 57 venaient de divers autres endroits, Italie, Égypte, Syrie, etc., et l'origine de 81 n'est pas connue. Les membres furent dans les premières années de jeunes hommes, dont la proportion diminua. En 1818, plus de 70% avaient moins de 40 ans. En 1819, ils représentaient moins de la moitié, 10. Au début de l'insurrection, l'Éthéri comptait 1093 membres, 21. Les trois quarts n'habitaient pas en Grèce. La moitié résidait en Russie, ainsi qu'en Moldavie et Valachie. Plus de la moitié avait une activité commerciale, marchand, employé de commerce et capitaine de navire. Les intellectuels, instituteurs, docteurs, etc., et les primats, propriétaires terriens, ne représentaient ensemble que 10% des membres, tout comme les militaires et les membres du clergé, qui ensemble dépassaient à peine aussi les 10%. Il n'y avait que 6 paysans, 22. Le patriarche de Constantinople Grigorio, fut approché lors d'une visite qu'il fit au mont Athos, 23. Il refusa, mais il aurait fourni en juin 1819 une contribution de 45 000 piastres pour construire une école dans le Magne. Que la construction ait été réelle, ou une contribution à l'Éthéri, elle servit de preuve aux autorités ottomanes. Cette possible implication dans l'Éthéri, fut une des accusations portées contre lui en avril 1821 avant son exécution, 24, 25. Histoire modifiée. Des débuts difficiles modifiés. Elle connut des débuts laborieux. En 1816, 20 nouveaux membres seulement avaient été recrutés. En 1817, le chiffre n'atteignait encore que 42, quelques membres en Italie, un à Vienne mais aucun à Londres, Paris, Marseille ou Amsterdam, grande ville de la diaspora marchande grecque. En fait, les fondateurs ne faisaient pas vraiment partie de la classe marchande grecque prospère. Ils n'étaient pas assez riches pour disposer des réseaux, et de la considération de la diaspora. Les premiers recrutés ne l'étaient pas plus. Iolani Capodistria les qualifia même de misérables employés de commerce. 18. Dès septembre 1814, les trois fondateurs se séparèrent. Xanto se rendit à Constantinople. Skoufa et Tsekelov partirent pour Moscou. Ils y recrutèrent Georgios Sokeri dès octobre. Son frère Panayoti fut ensuite un des principaux contributeurs. Skoufa retourna ensuite à Odessa où il initia quatre capitaines grecs de l'armée russe. Ils avaient servi lors de l'occupation russe des Ioniennes. Ils étaient en route pour Saint-Pétersbourg pour se faire payer leurs arriérés de soldes en usant de l'influence de Capodistria. L'un de ces quatre capitaines, Ananios Tara, fut un des plus efficaces recruteurs de l'Éthéri, il initia à lui seul 49 nouveaux membres avant le début de la guerre d'indépendance. Skoufa recruta aussi alors Nicolaou Galati originaire d'Ithaque, et qui prétendait être comte, et avoir l'oreille de Capodistria. 18. Un changement de stratégie modifié. Durant l'hiver 1817-1818, les trois fondateurs réunis à Constantinople, pensèrent à dissoudre l'association. Finalement, ils s'accordèrent pour une rationalisation de l'activité. Les trois fondateurs ne s'étaient pratiquement jamais trouvés ensemble, dans le même pays depuis la fondation. Ils s'étaient aussi dispersés dans tous les pays d'Europe. Ils décidèrent d'installer le quartier général de l'Éthéri à Constantinople, capitale de l'Empire qu'ils désiraient abattre, et surtout où la police politique était moins efficace qu'en Russie ou dans les États autrichiens. Il fut surtout résolu de concentrer les activités et le recrutement en Grèce même. Les quatre capitaines initiés à Odessa furent mis à contribution. Ananios Tara fut envoyé à Hydra, Spetse dans le Péloponnèse, un second dans le nord-est de la Grèce, et les deux derniers dans le Magne, 26. La rationalisation passa, aussi par la création d'éphories dans les principales villes d'Europe centrale et orientale. Chaque éphorie disposait de ses trésoreries, RS, les commerçants grecs membres les plus riches de la ville, et correspondait avec le quartier général à Constantinople, qui se chargeait de les diriger, et de les coordonner entre elles. Ioannina, Bucarest, Trieste, Jassy, Moscou, Pest devinrent centres d'éphorie, ainsi que Smyrne, Chio, Samo, Kalamata ou Missolonghi et d'autres. 15. Les problèmes financiers furent résolus par deux donations de Panayoti Sokeri, 35 000 piastres en tout, 27. Il promit ensuite d'engager l'intégralité de sa fortune au service de la cause. Il fut nommé membre du directoire invisible, 26. L'Éthéria fut cependant frappée le 31 juillet, Julien, 1818 par la mort d'un de ses fondateurs, Nicolaou Skoufa, 28, 29. L'échec du recrutement de Ioannis Capodistria modifié. L'étape suivante fut de trouver un chef charismatique, dont on pourrait ouvertement se réclamer, et qui apporterait le soutien d'une grande nation. Le choix se porta vers Ioannis Capodistria. Xanto fut envoyé à Saint-Pétersbourg pour tenter de le convaincre. Issu d'une riche famille corphiote, rédacteur de la Constitution de la République autonome des Sept-Îles et membre de son gouvernement, il s'était fait remarquer lors de l'occupation russe de l'archipel, et était entré dans la diplomatie russe jusqu'à devenir ministre, associé avec Nesselrode, 30. Cependant, dès 1817, Nicolaou Galati avait approché Capodistria à Saint-Pétersbourg, et lui avait proposé de prendre la tête de l'Éthéri. Il avait essuyé un refus catégorique. Galatis était en effet déjà déconsidéré dans la capitale russe. Il y menait grand train, grâce à de nombreux emprunts qu'il ne remboursait pas. Il fréquentait des conspirateurs connus de tous. Il affirmait avoir à sa disposition 1 millier d'hommes et il se disait prêt, dès qu'il en recevrait l'ordre, à assassiner le tsar. Cela ne pouvait jouer en sa faveur auprès d'un ministre de l'empereur. 30. Galati se rendit alors dans les provinces danubiennes où il recruta de nombreux membres. En 1818, il arriva à Constantinople où il tenta d'extorquer de l'argent aux trois fondateurs en menaçant de les dénoncer. Il fut convaincu d'aller recruter de nouveaux membres de l'Hétérie dans le Magne. Sakalov l'accompagna. Ils s'arrêtèrent près d'Hermione en Argolide. Galati fut alors victime d'un adultère. 31, le premier de l'histoire de l'Hétérie. 28. Xanto fut encore précédé en 1819 par Camarino, envoyé par le magnate Petrobem Avromichali. Camarino était porteur d'une lettre demandant à Capodistria de participer au financement d'une école dans le Magne, et d'un message oral lui demandant de prendre la tête de l'Hétérie. Le refus de Capodistria choqua tellement Camarino qu'il ne put cesser d'en parler autour de lui lorsqu'il rejoignit Constantinople pour informer le quartier général. Il dut trop parler puisqu'il fut lui aussi victime d'un adultère. 28. Les morts brutales et rapides de Galati et Camarino pourraient aussi s'expliquer par le fait qu'ils en auraient trop su, principalement la non-implication de Capodistria, alors que la rumeur le disait membre du directoire invisible, et apportant le soutien de la puissance russe. 32. Emmanuel Xanto avait potentiellement plus de poids. Il était un des fondateurs de l'Hétéria qu'il dirigeait en tant que membre du directoire invisible. Il avait aussi l'avantage, à 48 ans, de la maturité. Il disposait aussi d'une lettre d'introduction écrite par un ami d'enfance de Capodistria, Antimo Gazzi, alors directeur d'école dans le Pélion. En fait, l'idée était, si Capodistria refusait à nouveau, de ne pas se l'aliéner par la personnalité de l'émissaire, afin qu'il suggère lui-même une solution alternative. Xanto arriva à Saint-Pétersbourg en janvier 1820. Il joua immédiatement son va-tout en révélant au ministre du Tsar tous les rouages de l'organisation. Capodistria refusa à nouveau principalement, parce qu'il était ministre du Tsar. 32. Une seconde rencontre fut organisée par le secrétaire particulier de Capodistria, un membre de l'Hétérie. Ce fut un nouveau et définitif refus le 15 janvier, Julien, 33, 29. Il aurait cependant financé quelques écoles. 23. Le soutien puis la trahison d'Ali Pacha modifié. Au début de 1820, dans le Péloponnèse, les principaux membres se réunirent à Tripolisa, alors capitale politique ottomane de la péninsule. Il désirait, avant de poursuivre plus avant, être sûr du soutien, suggéré par le directoire invisible, de la Russie. Ils désignèrent l'un d'entre eux, Ioanni Paparigopoulou, comme émissaire auprès du directoire invisible, puis de la Russie. Il réclamait du directoire, la création d'une euphorie pour la péninsule, afin de coordonner toutes les actions, et d'obliger les membres à obéir à celle-ci, sous peine d'exclusion et afin de disposer d'une trésorerie contrôlée par les membres les plus respectables de la région qui centraliserait les souscriptions des frères du Péloponnèse, et des Ilioniennes et qui ne dépenserait les sommes qu'après accord du directoire. Il désirait aussi que la correspondance entre le directoire et le Péloponnèse fût sécurisée par les frères d'Hydra, ils plus ou moins autonomes et dont les navires ne craignaient pas l'arraisonnement P. Ar les Ottomans. 34. Ali Pacha de Janina avait connu Paparigopoulou quelques années plus tôt. Il l'invita à passer le voir après Vesa. Le Pacha désirait se rendre totalement indépendant de la souveraineté du sultan. Il se cherchait alors d'alliés pour rompre avec la porte, non parfois donnée au gouvernement de l'Empire ottoman. Il se rapprocha donc de l'Hétérie, et espérait ainsi gagner l'amitié de la Russie, puisque l'Hétérie se disait soutenue par l'Empire tsariste. Sur le conseil de Germano, Paparigopoulou aurait mis le Pacha de Janina dans la confidence. En échange, Ali Pacha accorda son soutien à l'Hétérie, et insista pour que Paparigopoulou le fît savoir au directoire et à la Russie. 34. Ali Pacha, dans le même temps, essaya d'assassiner un de ses ennemis politiques, Ismaël Pacha, à Constantinople. L'échec entraîna la rupture entre Ali Pacha et la porte. Le 23 mars 1820, il annonça ouvertement qu'il se faisait le libérateur des Grecs. Paparigopoulou, depuis Constantinople, lui fit savoir qu'il avait le soutien de l'Hétérie. 35. Le sultan envoya d'abord Ismaël Pacha, puis Kursi Pacha le gouverneur du Péloponnèse, à la tête de milliers d'hommes pris dans les différentes provinces de l'Empire ottoman pour écraser son sujet rebelle. Des palikares grecs, commandés par des membres de l'Hétéria, comme Odyssée et Androusso, combattirent dans le camp d'Ali Pacha. Cette mobilisation des troupes ottomanes en Épire, servit aussi les vues de l'Hétérie, les autres provinces étaient découvertes, les combats pour la libération pourraient y être plus faciles. 36. Cependant, en janvier 1821, Ali Pacha, qui tentait un retour en grâce auprès du sultan, dénonça l'Hétérie et ses membres dans des lettres qu'il envoya à Constantinople. Cette trahison fut un des nombreux éléments qui informèrent la porte de ce qui se tramait, obligeant l'Hétérie à accélérer le cours des événements. 37. Malgré tout, les troupes ottomanes restèrent concentrées autour de Ioannina laissant le champ libre dans les autres provinces. La guerre d'indépendance grecque modifiée. Le recrutement d'Alexandre Ypsilanti modifié. Alexandre Ypsilanti était une autre possibilité. Aide-de-camp du tsar, il avait perdu un bras lors de la bataille de Dresde, et ses deux frères étaient déjà membres de l'hétairie. Xanto fit une approche prudente, afin de ne pas essuyer un nouveau refus, qui aurait été catastrophique. Lors d'une première rencontre, il évoqua le sort des Grecs sous le joug ottoman. Le lendemain, après avoir laissé à Ypsilanti le temps de réfléchir et de demander ce qu'il pouvait faire pour soulager les maux de ses compatriotes, la question fut posée. Ypsilanti accepta avec enthousiasme. Il prit la tête de l'Helléniki Etoria, et non de la Finiki Etoria, comme l'indique le document qu'il signa le 24 avril, 12 avril Julien, 29, 1820. L'hétérie des amis était devenue nationale sous le nom d'hétérie des Grecs, 33-38. De là vient parfois l'ambiguïté historiographique faisant d'Ypsilanti seulement le chef de la branche militaire de l'hétérie. Alexandre Ypsilanti quitta alors le service du tsar sous prétexte d'aller prendre les eaux en Bessarabie, 39. Il racontait, et ses biographes du XIXe siècle avec lui, qu'avant de quitter Saint-Pétersbourg, il se serait rendu à Tsarskoï Selo, et y aurait rencontré le tsar, sur l'épaule duquel il aurait pleuré le sort des Grecs. Le tsar lui aurait alors promis, qu'une levée de boucliers se montre en Grèce, et Mekos acquérant la secondée Paparigopoulos, toujours chargé par le Péloponnèse de s'assurer du soutien russe, et Ypsilanti, qui commençait à douter de la capacité militaire des hétéristes, se rencontrait à Odessa durant l'été 1820. L'aide-de-camp du tsar aurait alors raconté sa touchante entrevue avec le souverain. Paparigopoulos aurait quant à lui utilisé un blanc-seing qui lui avait été remis, avec les signatures des membres les plus importants de la péninsule, pour faire une liste détaillée, mais inventée, d'armes, de munitions et de finances propres à rassurer Ypsilanti, 39 qui fut alors fermement convaincu, à tort, que 25 000 hommes étaient déjà en armes dans le Péloponnèse et que Tripolisa, la capitale ottomane, était déjà pratiquement aux mains des Grecs, 40. Le déclenchement de l'insurrection modifiée. Le 7 octobre, Julien, 1820, une réunion de l'hétérie eut lieu à Ismaïan Bessarabie, à l'initiative de Papa Flessa. Il fut décidé de précipiter les événements. Un premier plan fut mis au point. Le chef de l'hétérie, Ypsilanti, devait se rendre dans le Péloponnèse pour y déclencher l'insurrection. Papa Flessa fut envoyé afin de préparer le terrain. Depuis Argos, en décembre, il envoya des lettres aux divers chefs de guerre de la péninsule pour les prévenir de l'imminence du soulèvement, 29. Un autre plan fut suggéré. On proposa à Ypsilanti d'attaquer par les provinces danubiennes de Moldavie et Valachie, que les hétéristes réunis à Ismaï, considéraient comme une autre Grèce. Les habitants étaient orthodoxes. Les dirigeants, les hospodaires au service de la porte, étaient des phanariotes, donc potentiellement favorables à la cause grecque. L'hospodar phanariote de Moldavie, Michel Soutso, était même membre de l'hétérie, et favorable au soulèvement. Leur administration, composée de Grecs, était en grande partie déjà affiliée à l'hétérie, tout comme les marchands grecs. De plus, les régions n'étaient plus défendues que par quelques centaines de soldats turcs, les autres ayant été mobilisés contre Ali Pacha de Janina. La région était aussi depuis longtemps convoitée par la Russie. Y déclencher l'insurrection ne pourrait que satisfaire le tsar et gagner son soutien définitif. Enfin, les traités entre Empire russe et Empire ottoman avaient interdit à la porte d'envoyer des troupes dans les provinces des Danubiennes sans l'accord de Saint-Pétersbourg, 40. Toutes les conditions étaient donc réunies pour en faire un premier objectif. Fin janvier 1821, deux des agents d'Ypsilanti, porteurs de lettres concernant l'insurrection signée de sa main, furent capturés en Serbie et à Thessalonique. Ils risquaient d'être rappelés par le tsar. Il fallait précipiter les événements, 37. Le 16 février, Julien, 1821, à Kishinev, Ypsilanti fixa la date définitive de l'insurrection au 25 mars pour la Grèce même, et franchit le Prut le 22 février, Julien, déclenchant par la même l'insurrection dans les provinces danubiennes de Moldavie et Valachie, 41. L'implication dans les provinces danubiennes modifiées. L'hospodar phanariote de Moldavie, Michel Soutso, était membre de l'hétérie, et favorable au soulèvement. Cependant, il joua sur les deux tableaux. Il informa son ministre à Constantinople de l'imminence de l'attaque d'Ypsilanti, et demanda des instructions. Ainsi, si la révolte échouait, il était couvert. Si elle réussissait, il n'aurait pas à se soucier de suivre les instructions, 42. La veille de l'entrée d'Ypsilanti dans les provinces danubiennes, à Galatz, Vasilio Caravia, principal membre local de l'hétérie, réunit les autres membres et ses fidèles. Il leur annonça que le déclenchement de l'insurrection était proche et qu'il fallait prendre les troupes ottomanes par surprise. Celles-ci furent immédiatement tuées. Ensuite, Caravia, qui vit un moyen de s'enrichir, ordonna aux hétéristes de massacrer les marchands turcs de la ville et de s'emparer de leurs biens. Caravia devint ensuite l'un des deux commandants de bataillon des troupes d'Ypsilanti, 43-44. De même, lorsque, le 6 mars, Jassy, la capitale de la Moldavie, fut prise, sans combat, Ypsilantiki avait grand besoin de fonds pour payer ses troupes, leva un impôt révolutionnaire sur les plus riches citoyens, et extorqua d'importantes sommes à un banquier grec de la ville, prétextant qu'il avait dissimulé, peut-être volontairement, des sommes destinées à l'Éthérie 43. Le 14 mars, il quitta Jassy à la tête d'environ 600 hommes dont 800 cavaliers, la plupart volontaires éthéristes. La troupe marcha sur la Valachie. En route, les volontaires éthéristes se livrèrent à de nombreux pillages, la troupe avait décidé de vivre sur le pays, qui les déconsidérèrent. Petit à petit, les populations locales se mirent à craindre leur arrivée. 45. En mars, le tsar et Capodistria depuis le congrès de Lébache, condamnait le déclenchement de l'insurrection grecque, puis Alexandre Ier chassa Ypsilanti de son armée, et lui interdit de remettre le pied sur le territoire russe. Au même moment, le patriarche de Constantinople Grigorio, lança un anathème contre l'hétérie qui mettait en danger l'église orthodoxe. Si ces coups qui frappaient le mouvement, ne découragèrent pas Ypsilanti, 46, sa cause en souffrit. Il fut abandonné par une partie de ses troupes, ainsi que par Michel Soutso qui s'enfuit en Russie. Il s'installa le 16 avril à Tergoviste avec un peu plus de 600 hommes. Parmi ceux-ci, il avait organisé ses éthéristes les plus jeunes, et les plus ardents au sein d'un bataillon sacré vêtu de noir avec comme emblème, une tête de mort et deux à croix au-dessus de la devise « La liberté ou la mort ». 47. Tudor Vladimirescu avait profité de l'entrée Ypsilanti dans les provinces danubiennes pour déclencher une révolte nationale roumaine, plus ou moins coordonnée avec la tentative grecque. Mais les deux mouvements étaient en concurrence. Certains officiers de Vladimirescu étaient des éthéristes et supportaient mal sa discipline et sa politique. Le lieutenant de Vladimirescu, un grec éthériste Yorgaki Olympioti, dénonça devant les troupes son attitude ambiguë, l'arrêta et l'amena au camp d'Ypsilanti où il fut exécuté. Les troupes de Vladimirescu furent jointes à celles d'Ypsilanti. À la mi-juin, il tenta de remonter vers le nord. 48. Le 13 juin, Julien, les troupes ottomanes avaient repris Jassy. Elles marchèrent à la rencontre d'Ypsilanti. 49. La rencontre eut lieu le 19 juin, à Dragatsani, dans le județ de Valsea. Là, le bataillon sacré commandé par Yorgaki Olympioti, et le plus jeune frère Ypsilanti, Nicolas, ainsi que 500 cavaliers commandés par Vasilio Caravia, furent taillés en pièces par les troupes ottomanes. Vasilio Caravia et ses hommes prirent la fuite. Yorgaki Olympioti réussit à sauver une centaine d'hommes, parmi eux se trouvait Athanasios Tsakelov, un des fondateurs de la Finikie Toria, et l'étendard de l'unité. Le reste du bataillon sacré, plus de 400 hommes, périt. La seule bataille rangée d'Ypsilanti, et de l'Éthérie dans les provinces danubiennes, se terminait par un désastre. L'armée se délita. Ypsilanti réussit à gagner de temps, bien que mal l'Empire d'Autriche où il termina sa vie en prison. 50. En Grèce modifiée, Pape Flessa, un ecclésiastique membre de l'Éthérie, avait été envoyé en Grèce d'abord pour préparer le terrain pour Ypsilanti puis, pour y préparer l'insurrection. Malgré ses études et sa fonction religieuse, il était un ardent défenseur de l'action, « Nous avons besoin d'action ». Parler n'est pas travailler. On ne devient pas un homme en restant assis, dans son club et en se chauffant près du poêle. 51. Sa propagande révolutionnaire dans le Péloponnèse finit par inquiéter les notables, clergés et propriétaires terriens, qui avaient acquis leur fortune et leur pouvoir au service de l'occupant ottoman. Ces primas, proesti ou prokriti en grec et kojabasi en turc, n'avaient apporté leur soutien à l'hétérie que parce qu'ils désiraient remplacer l'autorité ottomane par la leur. Ils eurent alors peur de se faire doubler par des discours et des hommes plus radicaux. Ces primas, menés par Germano, se réunirent à Patra et tentèrent à l'automne 1820 d'organiser et coordonner les activités de l'Éthérida, NS la péninsule. Paparigopoulo venait de revenir de sa mission. Il affirma que la création de l'Éphorie avait été approuvée par le directoire invisible et validée par Ypsilanti. Un conseil central fut créé. Il était composé de 6 membres avec un président Ioanni Vlasapoulo et 2 trésoriers Ioanni Papadiamantopoulo et Panagioti Aovali. Ces désignations firent des mécontents et l'action du Conseil central fut presque immédiatement paralysée. Le Péloponnèse fut divisé en 7 gouvernements locaux et fora. Le but recherché ne fut pas atteint. Les discours modérés des primes membres de l'Éthérie leur aliénèrent une bonne partie de la population. 39, 52. Pape Flessa disait en effet à qui voulait l'entendre, mais aussi dans ses rapports envoyés à Ypsilanti, que des armes étaient stockées par la Russie à Hydra, que des armes étaient stockées partout, dans le Péloponnèse par les Grecs, que les Phanariotes étaient prêts à incendier les principaux quartiers, et l'arsenal de Constantinople, que d'Ibric Hydriot devait avec leur aide, s'emparer du sultan et l'obliger à accorder l'indépendance à la Grèce. L'Éphorie du Péloponnèse le convoqua le 26 janvier 1821 à Vostitsa. Il se défendit en montrant les lettres de créance que lui avait accordées Ypsilanti. Le conseil central lui demanda cependant de cesser ses activités, de se retirer chez lui. Une assemblée des membres péloponnésiens de l'Éthérie fut convoquée à Patra, afin de désigner un nouveau chargé de pouvoir d'Ypsilanti pour la région, ainsi qu'un nouvel émissaire auprès du tsar pour s'assurer à nouveau des intentions de la Russie. 40. Une telle attitude ne pouvait pas satisfaire la population et elle, un chef de guerre, un des signes avant-coureurs de l'insurrection nationale grecque, fut l'attaque par Nicolaos Souliotes, un membre de l'Éthérie recruté par Papa Flessa, de messager ottoman près d'Agridi. 53. Ensuite, la plupart des chefs de guerre qui menèrent le conflit, étaient membres de la Phylikietoria, qui avait ainsi joué son rôle de préparation et coordination de l'insurrection. La déclaration d'indépendance, et la fin de la Phylikietoria modifiée. Le 15 janvier, Julien, 1822, l'Assemblée nationale d'Épidaure, après avoir proclamé l'indépendance, reconnue près de 10 ans plus tard, par les puissances occidentales, abandonna définitivement le drapeau de la Phylikietoria pour adopter le bleu et le blanc. 54. C'en était fini de l'Éthérie qui avait joué son rôle dans le soulèvement national, et la libération de la Grèce.